Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Les écuyers du cadre noir de Saumur perpétuent la pratique des airs relevés et sauts d'école. Trois d'entre eux sont encore aujourd'hui présentés à Saumur, la courbette, la croupade et la cabriole. La courbette est une sorte de cabret stylisé propre à Saumur. À l'indication des aides de l'écuyer, à partir de la mobilisation piaffée spécifique du sauteur, dans un équilibre sur les hanches, le cheval élève son avant-main en prenant appui sur ses postérieurs.
Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du cadre noir et plus particulièrement de son fonctionnement. Et pour ça, je reçois Thibaut Valette, écuyer en chef du cadre noir. Bonjour Thibaut.
Bonjour Laurent.
Alors Thibaut, vous êtes militaire au grade de colonel, écuyer en chef depuis 2021 à Saumur et écuyer au cadre noir depuis 2009. Et vous avez un palmarès tout à fait notable puisque vous êtes médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 en concours complet. Donc on va aborder les moyens humains et équestres du cadre noir, comment cela fonctionne, le nombre de chevaux, comment ces chevaux sont recrutés.
Sur le site de Saumur, on a 282 chevaux, c'est-à-dire qu'on est contraint par des effectifs qui sont constants, c'est normal. On a 280 chevaux qui remplissent toutes les missions du cadre noir, c'est-à-dire que là-dedans, on a des chevaux qui vont faire les galas. On a une quarantaine de sauteurs, par exemple, toutes générations confondues, donc des chevaux qui ne sont pas du tout prêts pour faire les galas, mais du 3 ans qui est acheté jusqu'au cheval qui fait les galas, une quarantaine de sauteurs, une quarantaine de manèges, de chevaux qui vont faire la reprise de manège dans les galas. Dans ces 282 chevaux, on a des chevaux de sport pour la pratique de la compétition. Dans ces 282 chevaux, on a des chevaux de formation pour les élèves qui vont apprendre le métier d'enseignant ou qui vont passer les diplômes d'enseignement. Donc 282 chevaux, on est à peu près à un renouvellement d'une dizaine de pourcents par an, c'est-à-dire qu'en gros, en moyenne, on va en réformer, c'est-à-dire qu'on va en mettre à la retraite une trentaine par an et en acheter une trentaine par an. Sauf exception, les chevaux sont achetés dans leur année de 3 ans, débourrés ou pas débourrés. Souvent, on essaye quand même de pouvoir avoir des chevaux débourrés parce que ça permet de les essayer monter. Et donc, c'est quand même plus facile de se rendre compte de ce que peut devenir un cheval en étant dessus plutôt que de ne le voir qu'en liberté avec et qu'il n'a jamais eu la selle. Mais ça peut arriver que parfois, les chevaux ne soient pas débourrés. Et puis, les chevaux vont rester dans la maison, je dirais, jusqu'à leur mise à la retraite. Cette mise à la retraite, elle peut arriver à 18, 19 ans. Elle peut arriver plus tôt si un cheval est blessé. Mais on s'engage à, et il y a une personne qui s'occupe de ça, à assurer à chaque cheval une retraite heureuse. C'est-à-dire que on a une personne qui s'occupe de trouver un lieu de retraite pour chaque cheval qui va quitter le site. Alors, ce qui est intéressant chez nous, et ce qui est une richesse aussi et une chance folle chez nous, c'est qu'en fait, il y a plein de métiers différents pour les chevaux. Un cheval va être acheté avec, a priori, un métier prédéterminé, c'est-à-dire qu'on va, sur les 30 chevaux, on va dire, cette année, j'ai besoin de 5 sauteurs ou 7 sauteurs. Et puis, si on se rend compte que le cheval n'est pas vraiment fait pour ça, eh bien, il va continuer d'être travaillé et puis il va pouvoir aller faire de la formation avec les élèves. Si on achète un cheval en se disant il va faire a priori de la compétition dans telle discipline et qu'on se rend compte que ça ne va pas, il continue d'être formé, il va pouvoir aller faire des galas ou il va pouvoir aller faire de la formation avec les élèves. Donc, on a la chance, contrairement à quelques structures plus petites où il y a moins de métiers, on a la chance finalement que chaque cheval puisse trouver un métier qui lui correspond.
Et la plupart des chevaux finalement sont achetés jeunes.
La plupart des chevaux sont achetés jeunes.
Il y a une culture de la formation du cheval aussi.
Exactement. Le métier des écuyers, c'est de transmettre et de former les chevaux. On n'est pas comme dans une écurie privée. En tout cas, ce n'est pas notre métier. Ça peut arriver de manière très ponctuelle ou quand il nous manque un cheval pour la formation, il peut nous arriver de manière très ponctuelle d'acheter un cheval qui va pouvoir remplir sa mission tout de suite et donc acheter un cheval plus âgé. Là, on a un objectif pour les Jeux paralympiques en dressage. On avait une athlète qui n'avait plus de cheval. On a trouvé un cheval qu'on espère pouvoir voir aux Jeux Olympiques, ce qui n'aurait pas été le cas si c'était un cheval qui avait 3 ans, etc. Mais c'est vrai qu'un des métiers de l'écuyer, c'est l'éducation de son cheval, finalement, et des chevaux. Ça fait partie de la transmission également, finalement, cette formation des chevaux. Et donc, c'est vrai que dans l'immense majorité, les chevaux sont achetés à 3 ans. Et puis, si tout va bien, je dirais qu'à l'âge de 18 ans, on se dit, bon, maintenant, le cheval a mérité d'avoir une belle retraite. Et donc, on va commencer à s'interroger pour lui trouver une retraite.
Saumur a des herbages aussi, hein, je crois.
Saumur a des herbages. Et chaque année, finalement, alors, c'est valable pour les chevaux de formation, les chevaux des élèves, essentiellement, quand l'été, il y a moins d'élèves qui sont présents sur le site de Saumur. C'est valable aussi pour les chevaux des cadres et souvent des jeunes chevaux qui ont besoin de temps pour leur croissance ou de périodes de pause un petit peu dans leur apprentissage. Saumur a des herbages aux alentours de la ville de Saumur où on va mettre les chevaux. Alors soit en grand nombre, soit en tout petit nombre, mais de manière à ce que les chevaux puissent bénéficier de moments de break et de pause dans leur travail. Et c'est vrai que c'est important. Souvent, on les retrouve plus en forme, plus apaisés et plus prêts à retravailler. L'année, souvent, se décompose de cette manière-là.
Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des écuyers. Combien ils sont ? Ils sont, on l'a dit tout à l'heure, parfois militaires, parfois d'origine civile. Il y a des femmes aussi.
Oui. Alors, actuellement, on a 32 écuyers. Dans ces 32 écuyers, il y a 4 femmes. Alors, c'est relativement peu. Simplement par l'histoire, je dirais, du cadre noir. Auparavant, il n'y avait que des hommes, puisqu'il n'y avait que des militaires et qu'il n'y avait pas de femmes chez les militaires à ce moment-là. La première femme, elle est arrivée en 1983, c'est Florence Labran, hein, première femme. En tout, il y a eu 6 femmes qui ont été écuyers au cadre noir. On en a 4 actuellement. Les 4 femmes écuyers, on a 3 écuyers civils et une militaire. Et puis en tout, sur les 32 écuyers, il y a 7 militaires. Donc voilà, je dirais que ce n'est pas un quota qui est forcément très fixe, mais je dirais que c'est le résultat de l'histoire finalement qui fait qu'il y a encore une tradition militaire quelque part. L'écuyer en chef, pour l'instant, est militaire et a toujours été militaire ou quasiment toujours été militaire parce que c'est la tradition militaire de la création du cadre noir qui fait que c'est comme ça. Que ce soit les écuyers civils ou les écuyers militaires font le même travail finalement, les écuyers civils dépendent du ministère Jeunesse et Sport. Les écuyers militaires sont détachés du ministère des Armées vers l'Institut français du cheval et de l'équitation pour des périodes qui sont moins longues. C'est-à-dire que si on parle un petit peu du recrutement des écuyers, les écuyers civils sont recrutés sur concours, les écuyers militaires sont mutés. C'est-à-dire qu'un militaire dans les armées va de garnison en garnison et est muté à différentes périodes de sa vie professionnelle. Eh bien, en cadre noir, c'est la même chose. Alors, comme il y a un besoin de formation et que le métier de l'écuyer est un petit peu spécifique, on va les garder sans doute un petit peu plus longtemps que si c'était une mutation normale dans un régiment des forces. Mais tous les 10 ans à peu près, les écuyers militaires vont changer d'affectation.
Alors comment devient-on écuyer ? Parce que c'est quand même une sélection assez drastique, enfin très importante pour devenir écuyer. Et comment ça se passe ?
Alors c'est vrai que c'est une sélection qui est importante. Alors donc pour les écuyers militaires, c'est une mutation. C'est-à-dire que souvent, les écuyers ont leur instructorat d'équitation. Et puis, quand il y a une mutation, je dirais, d'un écuyer militaire, eh bien, l'écuyer en chef, en lien avec le chef des sports équestres militaires, fait venir un des militaires, qu'il soit officier ou sous-officier. Actuellement, on a 4 sous-officiers, 3 officiers. Ça pourrait être l'inverse, c'est pas prédéterminé. Mais donc voilà, on essaye de rester dans ce quota, je dirais, de 7 militaires détachés. Ça, c'est le plus simple, c'est la façon de faire venir un militaire sur le site. Pour les civils, c'est plus compliqué, dans la mesure où un écuyer civil, il va pouvoir, s'il le souhaite, rester écuyer toute sa carrière professionnelle. On est contraint également par des effectifs. Hein, donc, en gros, pour schématiser, quand un écuyer va partir à la retraite, un poste va être ouvert. Ce qui limite quand même pas mal les recrutements et ce qui fait que lors de chaque sélection et recrutement, eh bien, il y a un enjeu particulier finalement. À tel point que on est actuellement dans un processus de recrutement et que l'on avait l'année dernière 2 postes d'écuyer, un pour l'écurie du saut d'obstacle, un pour l'écurie du concours complet d'équitation, parce que les écuyers viennent donc pour ces 4 missions, mais avec une préférence sportive ou une expérience sportive dans une discipline olympique, et que l'on a trouvé quelqu'un, un jeune, pour l'écurie du saut d'obstacle et que l'on n'a pas recruté pour l'écurie du concours complet d'équitation. En attendant de pouvoir réouvrir le poste et espérer avoir finalement davantage de possibilités ou des profils peut-être un petit peu différents, etc. C'est exigeant parce qu'en fait, on a besoin d'écuyers qui soient techniquement bons, pédagogiquement bons et qui donne une belle image de l'uniforme, de la tunique noire, de l'équitation de tradition française sur le site de Saumur et à l'extérieur de Saumur. Et finalement, ça fait beaucoup de critères. Et puis, on n'a pas le droit de se tromper parce qu'on représente quelque chose, la tunique représente quelque chose d'important. Et que c'est tout ça que chaque écuyer, quand il est en mission, mais sa mission peut être de la compétition ou de l'enseignement tous les jours avec ses élèves, ou lorsqu'il est en gala et qu'il est devant quelqu'un et qu'il se produit, qu'il se présente, qu'il montre son travail à quelqu'un, c'est pas lui qui est jugé, c'est toute la maison qui est jugée. Donc, voilà, c'est vrai que ces recrutements, ils sont importants, ils sont pas faciles à faire parce qu'il y a beaucoup de critères pour un seul homme finalement, ou une seule femme. Et que quand un écuyer civil, là, la personne qu'on en a recrutée, il a 23 ans. Et 23 ans, on leur demande beaucoup de choses à 23 ans. Et il va pouvoir rester jusqu'à 65 ans.
Donc, quand ils rentrent, ils sont élèves écuyers, c'est ça?
Alors c'est ça. Quand ils rentrent, ils sont élèves écuyers. Ça va durer un an, c'est un peu leur période probatoire. Ils ne sont pas habillés comme les écuyers. Ils sont habillés en civil. Et puis, je dirais que si tout va bien, alors heureusement, dans l'immense majorité des cas, tout va bien, il va se voir remettre la tunique noire, la tenue noire, au bout d'un an, et il va devenir aspirant écuyer. Il va être aspirant écuyer pendant 2 ans. Et ensuite, il pourra être écuyer au bout de 2 ans de tunique noire, donc 3 ans de présence. On essaye, c'est pareil, ça se faisait plus ou moins, mais on l'a rendu systématique, d'entourer les jeunes écuyers de manière plus importante que ça se faisait avant. C'est-à-dire qu'on met en place un système de tutorat où on a des plus anciens qui vont être les tuteurs des plus jeunes pour les suivre dans leur pratique, pour les suivre dans leur enseignement, pour les suivre aussi dans ce qui fait le quotidien du cadre noir. Leur dire non, ça se fait pas, ça se fait, etc., etc. Et de manière à ce qu'on n'ait pas des jeunes qui soient un petit peu livrés à eux-mêmes lorsqu'ils arrivent ici. Donc voilà, c'est important. Et puis ensuite, on a une dernière catégorie d'écuyers. On n'en a pas actuellement, qui s'appelle maître écuyer. C'est, je dirais, réservé à des gens soit qui ont eu un parcours marquant au niveau du cadre noir et de la partie gala et de la partie collectif dans l'encadrement. Ça peut être des maîtres de manège, donc c'est-à-dire des gens qui sont responsables du travail, soit des sauteurs, soit des chevaux de dressage pour les galas, et qui ont fait preuve d'un investissement vraiment important, qui ont marqué un petit peu l'histoire du cadre noir. Ça peut être des gens qui ont eu un parcours sportif qui a fait honneur vraiment au cadre noir aussi. Voilà, et c'est en tout cas des gens qui sont reconnus par les autres écuyers, par le groupe des écuyers, pour leur investissement, pour leur connaissance, je dirais, qui seraient un petit peu les fils conducteurs, ou en tout cas les repères. Voilà. Mais actuellement, on n'a pas de maître écuyer.
Alors justement, au-delà des maîtres écuyers, il y a quelques écuyers connus qui se sont illustrés. On peut citer quelques noms de...
Oui, alors il y a des grands noms, hein, de grands maîtres qui, alors soit par leur pratique, soit par leurs écrits, ont marqué finalement l'histoire du cadre noir. On a le général Lott qui est resté célèbre, qui était dans les années 1820, qui sont restés célèbres. Hein. Il est l'auteur de la célèbre phrase « calme en avant et droit » qui est inscrite dans le manège des sauteurs. Donc c'est vrai que ce sont des gens qui ont marqué l'histoire du cadre noir. Il y a le comte d'Or, il y a de Carpentry, tout ça, ce sont des gens qui finalement, soit par leur pratique, soit par ce qu'ils ont laissé comme message ou comme enseignement, et c'est là où la transmission finalement est importante, et c'est là où on se rend compte que cette transmission, elle est n'existe pas depuis 5 ans ou 10 ans, elle existe depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles même. Ce sont des gens qui sont restés des figures marquantes, emblématiques du cadre noir. Alors sans doute que l'époque était aussi propice à ça, hein, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que finalement l'équitation telle qu'on la connaît un peu aujourd'hui s'est construite aussi. Et donc ces gens-là ont marqué l'histoire du cadre noir et on est toujours à vous voyez, cette phrase « calme en avant droit », on l'a sous les yeux tous les jours quand on travaille. Et pourtant elle date d'il y a plusieurs siècles.
De façon plus récente, on l'a évoqué tout à l'heure avec votre médaille d'or à Rio, mais il y a d'autres médailles encore au sein du cadre noir.
Oui, alors il y a la partie, je dirais, écrit, de traces écrites qui ont été laissées dans des ouvrages. Et puis, il y a la partie sportive avec des écuyers qui ont pratiqué à très haut niveau leur sport dans les différentes disciplines olympiques. Et ça, ça existe depuis toujours également. Donc, on a eu des Lesages, on a eu des Le Goff qui ont participé à des championnats d'Europe, des championnats du monde, des Jeux olympiques avec succès. On a eu des Le Roland qui ont marqué aussi leur période de manière assez récente dans la discipline du dressage, qui montait avec énormément de légèreté, de fluidité, de facilité, et qui représentaient l'équitation de tradition française dans leur pratique. Et c'est ça aussi qui est important, de se dire, oui, le sport de haut niveau, mais pas à n'importe quel prix. On a la chance de pratiquer un sport dans notre tenue, finalement, dans notre uniforme. Il y a peu de sports qui se pratiquent avec une tenue spécifique. Et ces gens-là, à travers leur pratique, et le Roland, il a laissé l'image de quelqu'un qui pratiquait son sport avec une décontraction et une légèreté de la part de son cheval qui, aujourd'hui encore, suscite l'admiration. Donc, c'est ça qui est important aussi. Et puis, très récemment, on a des écuyers qui sont actuellement encore en activité au concours complet, qui ont participé aux Jeux Olympiques. On a Didier Desnins, on a Didier Courrèges qui est parti à la retraite il y a très peu de temps. On a Arnaud Boiteau qui est champion olympique à Athènes. On a Pauline Basquin dans l'écurie du dressage qui a fait les championnats du monde, les championnats d'Europe, qui, on espère, va participer aux Jeux Olympiques de Paris dans la discipline du dressage. Donc, de tout temps, on a eu des écuyers présents, des tuniques présentes sur des grosses compétitions, sur des sélections en équipe de France, sur des podiums de championnat. Et je crois que ce n'est pas le succès d'un tel ou d'un tel, c'est le résultat d'une richesse humaine, finalement, et d'une transmission qui se fait depuis 200 ans et de 32 personnes ultra spécialistes de leur domaine dans des conditions qui sont propices puisqu'on a le temps finalement de pouvoir former nos chevaux. Donc voilà, donc tout ça, ça fait que finalement, on a des écuyers qui, oui, sont présents sur le plan sportif ou sur le plan de la pratique en tout cas, qui sont performants et c'est ce qui fait aussi la valeur finalement d'une maison comme celle-ci. Oui.
Alors je voudrais qu'on revienne sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'on évoque constamment dans notre échange aussi, au niveau de l'équitation de tradition française, c'est cette inscription sur la liste à l'UNESCO. Comment s'est passée cette demande? Comment a-t-elle été acceptée? Et qu'est-ce que ça implique comme responsabilité pour le cadre noir?
Alors en fait, ça a été beaucoup de travail en amont, de constitution de dossiers, parce que ça a abouti finalement en 2011, mais les dossiers ont été travaillés, construits bien en amont. Ces travaux-là, ils ont commencé dans les années 2005, 6, 7 pour construire les dossiers, pour que finalement ce soit accepté par l'UNESCO. Alors en fait, c'est l'équitation de tradition française qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le cadre noir est désigné comme le représentant le plus emblématique de cette équitation. Dans ce sens-là, le cadre noir et les écuyers du cadre noir ont un devoir d'exemplarité dans la pratique, d'exemplarité dans leur enseignement, d'exemplarité dans leur relation avec le cheval. Donc l'équitation de tradition française, c'est la notion de respect de son cheval. On parle de sobriété dans l'emploi des aides, c'est-à-dire d'être le plus discret possible dans l'emploi des aides, d'absence d'effet de force. Tout ça, ce sont des termes qui reviennent ou des expressions qui reviennent dans les textes de l'UNESCO. Et je dirais que on a parlé tout à l'heure de notion d'homme de cheval, on a parlé de passer du temps avec son cheval, on a parlé de relations amicales, mais même presque plus qu'amicales, de l'homme avec son cheval. Il y a une vraie relation, on parle de couple cavalier-cheval, c'est quand même assez étonnant ou marquant d'utiliser cette expression-là, et pourtant on l'utilise tout le temps. L'équitation de tradition française, ce sont toutes ces notions-là, de respect de son cheval, de compréhension de son cheval, de patience. Et puis finalement, cette notion-là, elle dépasse presque la relation avec son cheval. C'est une dimension un peu presque plus philosophique. C'est presque, je dirais que le cheval, dans cette relation-là, nous rend humains meilleurs vis-à-vis des autres humains. Cette notion de respect, elle va s'élargir et puis elle va dépasser finalement le cadre homme-cheval ou cheval-homme. Elle va, je dirais, se diffuser dans la relation humain-humain. Et c'est une notion de respect d'autrui, tout simplement, qui fait qu'on n'est pas tout seul et que chacun travaille pour le bien de l'autre également. Et je crois que c'est tout ça qui est important finalement, c'est l'attention à l'autre.
Donc on a vu au cours de nos échanges cette place toujours prépondérante du cadre noir dans son époque, toujours dans cette modernité autour de l'équitation française. Comment peut-on imaginer le futur du cadre noir?
Alors il y a plein de belles choses à imaginer. Alors le futur du cadre noir, ce que l'on souhaite nous aujourd'hui, c'est surtout de faire en sorte que le cheval reste au centre. des différentes missions du cadre noir. Alors ça peut paraître quelque chose de normal, mais malgré tout, c'est quelque chose auquel on doit être vigilant, on doit faire attention. On a besoin de conserver des chevaux en quantité, en qualité. On a besoin de continuer de travailler avec les chevaux et non pas que les chevaux soient au service de l'humain, je dirais. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et puis, ensuite, nous, ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir faire rayonner toujours plus le cadre noir. Donc, on a plein de beaux projets dans toutes les missions du cadre noir. Dans la mission de la formation, on a pour projet de pouvoir travailler davantage avec l'international, par exemple. Il y a eu, il y a quelques années, une formation réservée à un public étranger, ici, sur le site de Saumur. C'est quelque chose qu'on aimerait remettre en place. Dans le domaine de la formation, toujours, on a des échanges de plus en plus fréquents avec des pays étrangers qui souhaitent profiter de formations ponctuelles pour les cadres de leur fédération. Tout ça, ça nous permettrait de faire rayonner le cadre noir, l'équitation de tradition française dans d'autres pays, que l'on puisse parler du cadre noir et que l'on puisse faire connaître le cadre noir et que l'enseignement et l'état d'esprit de l'équitation de tradition française puisse être diffusé à l'étranger. Ça, c'est pour la partie formation. On peut également utiliser, dans la partie recherche, différents moyens, différentes technologies plus modernes pour aider à l'enseignement, pour toujours mieux connaître le cheval, pour toujours le respecter davantage. Ça peut être dans l'équipement du cheval, dans l'adaptabilité, l'adaptation de l'équipement, de la selle, des amortisseurs, des mors, dans le suivi des chevaux, dans leur suivi vétérinaire, dans leur bien-être au quotidien, etc., etc.
Dans leur préparation aussi.
Et dans la préparation également, bien sûr, dans la préparation des grosses compétitions, dans le fait de les suivre dans leur mise en souffle pour la discipline du concours complet. On travaille avec davantage de capteurs, avec des cardiofréquencemètres. Il y a tout un tas de schémas qui sont faits pour savoir à quelle pulsation le cheval est monté, combien de temps, etc., etc. Son temps de récupération, son taux de lactate, etc. Tout ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant. On aimerait que le cadre noir devienne aussi, pourquoi pas, un lieu de résidence d'experts. Si le cadre noir est un lieu d'ultra spécialiste, on aimerait que des spécialistes du domaine du cheval viennent se former chez nous pendant des périodes données, un peu comme la Villa Médicis qui puisse être présent et que finalement le lieu du cadre noir devienne une résidence d'experts pour des spécialistes de la pratique de l'équitation ou de l'enseignement de l'équitation. On a projet de refaire un nouveau gala, par exemple. Il y a le gala que l'on présente actuellement, il a 6 ans ou 7 ans. On est en train d'essayer de construire un nouveau gala avec des nouvelles musiques. On travaille avec un compositeur actuellement, avec des nouveaux décors, avec une nouvelle histoire à raconter. Hein, aujourd'hui, c'est la Loire qui raconte le cadre noir. Il y a plein de choses à raconter. Et donc, on est en train de travailler sur un nouveau gala qu'on espère, qu'il verra le jour tout à fait à la fin de l'année 2024 ou si on n'y arrive pas, tout début 2025. On a plein de sujets aussi pour l'appui au sport de haut niveau. Depuis un an, on a des équipes de France qui viennent sur le site de Saumur. Ça ne se faisait pas avant. Les gens du sport de haut niveau, de la Fédération française d'équitation, ne nous demandaient pas d'aide ou d'appui sur des notions particulières. Et ça c'est fait grâce au plateau technique, grâce aux travaux de recherche, grâce au fait que ça devienne plus scientifique, plus construit, plus structuré. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait développer également. Donc il y a plein de belles choses. Il y a un enjeu primordial aussi sur une gestion optimisée de la cavalerie dans son bien-être, dans son suivi. Alors, on y passe, je dirais, tout notre temps, ou en tout cas, toute notre attention et tous nos efforts, mais on peut certainement faire mieux. Et ça, c'est un enjeu sociétal et c'est un enjeu pour l'avenir et pour le cadre noir qu'il faut surtout pas négliger. Il faut qu'on soit bon là-dedans. Donc, tous ces sujets-là sont des sujets passionnants, des sujets pour l'avenir et qui fait que le cadre noir, comme il était moderne en 1815 et moderne aujourd'hui, et qu'il a été moderne finalement avec les préoccupations de chacune de ces époques. En 1815, c'était préparer les gens et les chevaux pour la guerre. Et ben, ensuite, ça a été pour le sport. Et bien maintenant, c'est la continuité de tout ça. C'est l'enseignement des stagiaires, c'est le bien-être du cheval, c'est continuer d'aider pour le sport de haut niveau, etc., etc. Mais le cadre noir, dans son époque, finalement, reste moderne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours plein de choses à faire là-dedans.
On arrive à la fin de cet entretien et on rappelle qu'un certain nombre de liens sont précisés dans le podcast pour retrouver les documents qui ont été évoqués, notamment les ouvrages sur les passeurs, ce document sur l'UNESCO et puis un certain nombre d'autres points qu'on a évoqués. Merci Thibault.
Merci Laurent.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.